7. 14h03, Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire sur France Inter.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, avant le référendum de dimanche prochain, aujourd'hui et demain, deux émissions spéciales de 2000 ans d'histoire, les étapes de la construction européenne. Un jour viendra où vous, toutes les nations du continent, vous vous fondrez dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Victor Hugo. D'histoire. Quel que soit le résultat du référendum de dimanche prochain, jamais en France on n'aura autant parlé de l'Europe. L'idée d'unifier des peuples et des États européens plus habitués à se faire la guerre qu'à partager ensemble une aventure commune ne date pourtant pas d'aujourd'hui. Au 19e siècle, on vient de l'entendre, Victor Hugo rêvait déjà d'une fraternité européenne 65 ans avant le carnage de la Première Guerre mondiale. Et c'est pour éviter un autre conflit que dans les années qui ont suivi, quelques pionniers oubliés de la construction européenne se mettaient eux aussi à rêver tout haut de l'unité de l'Europe. Aristide Briand en 1930 à la tribune de la Société des Nations, 9 ans à peine avant la Deuxième Guerre mondiale.
Aujourd'hui, je suis à la tribune pour vous dire au nom de 27 nations européennes qui se trouvaient réunies ici il y a 3 jours, qu'elles ont reconnu, après une longue étude, que leur collaboration dans toutes les activités internationales par une union réalisée est d'une importance capitale pour le maintien de la paix.
Jean-Paul Bled et Benjamin Angèle, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Paul Bled, vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, et vous, Benjamin Angèle, haut fonctionnaire à la Commission européenne, et vous êtes aussi partisan du oui au référendum de dimanche prochain, alors que vous, Jean-Paul Bled, vous voterez non, et vous portez forcément tous les deux un regard un peu différent sur l'histoire de la construction européenne, dont nous allons parler avec vous aujourd'hui et demain, une construction que l'on fait souvent remonter au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais dont on vient de l'entendre, Victor Hugo parlait déjà au 19e siècle, Aristide Briand, que l'on vient d'entendre aussi dans les années 1930, mais l'idée de l'Europe est encore bien antérieure, puisque l'on parle d'elle déjà dans l'Antiquité, dans un petit livre que vous venez d'écrire chez Gallimard Découverte. Benjamin Angèle, vous rappelez d'abord qu'avant de devenir le nom d'un continent, Europe était celui d'une femme de la mythologie grecque, et à une époque où on ne savait pas très bien, comme aujourd'hui d'ailleurs, où s'arrêtent les limites, les frontières de l'Europe.
Absolument. Europe, dans la mythologie grecque, est la fille du roi Tyr à Genor, et son extrême beauté aurait attiré les faveurs de Zeus, qui s'était transformé en taureau pour l'enlever. Plus sérieusement, on trouve les premières traces de mot Europe dans le 7e siècle avant Jésus-Christ, où les Grecs, à l'époque, l'utilisent pour désigner la partie du Nord dans laquelle se trouvent les barbares.
Ils ne faisaient pas partie de l'Europe, selon eux.
Non, c'est eux n'étaient pas dans l'Europe. L'Europe, c'était les barbares du Nord, très clairement. Le terme s'est progressivement développé et son emploi a de plus en plus eu tendance à s'assimiler à celui de la désignation de la chrétienté occidentale, en quelque sorte.
C'est ça, c'était au fond le seul facteur d'unité d'un continent où l'on parlait des langues différentes et surtout où l'on se faisait essentiellement la guerre. J'en peux le dire, pendant des siècles, on parlait de l'Europe, mais l'Europe, c'était la guerre entre ces nations.
Je ne suis pas sûr qu'on parlait beaucoup de l'Europe en ces temps.
Enfin, le mot existait.
Existait, mais c'est vrai que ici comme ailleurs, l'histoire s'est faite à coup d'épée. Mais pas seulement à coup d'épée, parce que l'histoire des peuples, c'est aussi l'histoire d'échanges commerciaux. Pensons par exemple au Moyen-Âge, les relations entre la Flandre et l'Italie, et puis les relations culturelles. Toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire de la peinture est faite à partir d'échanges.
Bon, enfin, il y a eu quand même des guerres, des tentatives aussi d'unité, évidemment, de Charlemagne, le Saint-Empire romain se prétendait aussi être incarné l'Europe. En tout cas, elle s'est fait la guerre jusqu'au début du XXe siècle, et cela malgré les rêves de Victor Hugo, et même jusqu'au milieu du XXe siècle, avec la Deuxième Guerre mondiale, ce qui prouve que Briand s'était peut-être trompé en rêvant de paix en 1930, et il faudra justement ces deux carnages pour qu'on parle plus précisément d'une Union européenne, comme le faisait Winston Churchill en français au Congrès de La Haye en 1949.
Nous sommes réunis ici, dans cette assemblée nouvelle, non pas comme représentants de nos divers pays ou de différents partis politiques, mais comme des Européens, marchant en avant, la main dans la main, et s'il le faut, au coude à coude, pour faire revivre les gloires anciennes de l'Europe et permettre cet illustre continent de reprendre dans une organisation mondiale sa place de membre indépendant et se suffisant à lui-même.
Et c'était Winston Churchill à La Haye en 48, vous me précisez, Benjamin Angèle, date de la création justement de la première d'une des deux premières organisations européennes, le Conseil de l'Europe, qui était une organisation purement politique.
Absolument. La volonté derrière la formation de ce Conseil de l'Europe est tout droit issue de la résistance. Ce sont les mouvements de la résistance qui ont développé une philosophie, disons, fédéraliste. Ils se sont fédérés entre eux et ont plaidé pour l'organisation de ce congrès à La Haye, qui est un grand congrès, puisqu'il réunit plus de 800 personnes, dont 200 parlementaires, 60 ministres. On y trouve des noms très connus, comme Mitterrand, comme Adenauer, comme Spaak. Mais ce congrès, finalement, très vite se heurte à un débat entre souverainistes et fédéralistes. Déjà. Et le résultat est somme toute modeste, puisqu'on propose simplement, à l'époque, de créer une assemblée européenne non élue, ce qui donnera lieu au Conseil de l'Europe, et une Cour qui a vu son rôle considérablement se développer au fil du temps avec la Cour européenne des droits de l'homme.
Je voulais ajouter, c'est précisément cette grande voix qui est celle de Churchill. Ce Conseil de l'Europe, il en a été un des avocats, et les Britanniques y sont entrés, mais aussitôt, on se pose la question effectivement des pouvoirs qui seraient attribués à cette Europe, et on sait bien que les Britanniques sont très en retrait. Winston Churchill, qu'on vient d'entendre, n'est pas du tout fédéraliste.
Alors, on vient d'entendre, oui.
Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Jean-Paul Bled. C'est vrai que Winston Churchill ne souhaitait pas l'adhésion du Royaume-Uni à un ensemble fédéral. Mais il y a un grand discours de Winston Churchill en 1946 à Zurich où il plaide pour la création d'États-Unis d'Europe. Mais il est clair que dans son esprit, c'est sans la Grande-Bretagne.
Voilà. Fédéralisme pour les autres, fédéralisme pour les Britanniques.
Dans ce que disait Churchill à l'instant, on l'a entendu, il disait il faut rendre sa place à ce continent, évidemment affaibli, on s'en doute, par la Deuxième Guerre mondiale, une place indépendante, il parle d'Europe indépendante. Or, assez curieusement, vous le rappelez, Benjamin Angèle, à côté du Conseil de l'Europe, il y a une autre organisation qui a été créée antérieurement au Conseil de l'Europe, dès le lendemain de la guerre, à cause du plan Marshall, qui est la première organisation économique de l'Europe, qui est l'OECE, la future OCDE, l'Organisation économique de coopération économique. Et là, elle est faite, elle est voulue, cette première organisation européenne, par les Américains eux-mêmes.
Absolument. C'est une des conditions qu'ils fixent à la distribution de l'aide du plan Marshall, qui est que l'Europe s'organise politiquement pour être en mesure d'en bénéficier au mieux. Et derrière cette organisation de la coopération économique européenne, créée en 1948, on retrouve, là encore, des grands noms de grands Européens. Son premier président était Paul-Henri Spaak, qui a joué un grand rôle constamment.
Premier ministre belge,
merci de le rappeler, tout au long de la construction européenne. On y trouve aussi comme secrétaire général, par exemple, Robert Marjolin, qu'on retrouvera comme membre de la Commission européenne plus tard. Donc c'est véritablement le premier jalon posé à l'organisation de l'Europe de l'après-guerre.
Oui, mais avec la bénédiction, le parrainage des États-Unis, hein, cette Europe qui se veut indépendante des deux grandes superpuissances du lendemain de la guerre, l'URSS et les États-Unis, elle est assez sous tutelle américaine, en quelque sorte, quand même.
Le veut-elle véritablement être indépendante? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que nous sommes dans un contexte de guerre froide. Ben, tout ceci s'explique aussi par par l'environnement. Alors, c'est vrai que dans l'immédiat après-guerre, par exemple, il y a un discours du général de Gaulle, il fait référence à un texte de Tocqueville où il situait l'Europe entre les deux géants, futurs géants, les États-Unis et la Russie. Mais en 48-49, on n'en est plus là. Et on est donc dans cette guerre froide, avec des risques de guerre chaude tout à fait réels. Et pour les États-Unis, il est très important que l'Europe occidentale, car c'est l'Europe occidentale
qui s'agit, c'est évidemment, il n'y a pas question d'ouverture à l'Est, on est contre l'Est, au contraire. Oui.
S'organise sur un plan économique et sans doute sur un plan politique et militaire.
Avec l'OTAN, hein, auquel vont participer la plupart, justement, des pays d'Europe occidentale. Et alors, l'apparition aussi d'un premier organisme véritablement européen, qui est aussi la première étape vers l'unification de l'Europe, et apparemment beaucoup moins ambitieux, d'ailleurs, que celui du Conseil de l'Europe. C'est celui que propose, un an plus tard, le ministre d'Affaires étrangères français, Robert Schuman, dans un discours très célèbre, et qui paraît incroyable, 5 ans à peine après la guerre et l'occupation allemande de la France, le discours fondateur de l'Europe d'aujourd'hui, prononcé par Robert Schuman le 9 mai 1950 dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Dans ce dessein, le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe.
Alors Robert Schuman, bon, n'est pas un orateur, certes. Les propos qu'il tient nous paraissent aujourd'hui assez banal d'une certaine manière, et pourtant c'est vraiment le discours fondateur, c'est un discours révolutionnaire. Il faut le rappeler, Benjamin Angèle, ce discours du 9 mai 1950.
Absolument, c'est d'ailleurs la date anniversaire qu'on a retenue pour la fête de l'Europe, c'est-à-dire aujourd'hui encore, quand on célèbre l'Europe, c'est un 9 mai qu'on le fait. Ce n'est pas un hasard si Schuman, sous l'inspiration de Monet, focalise cette communauté sur le charbon et l'acier. Le charbon, dans l'immédiate après-guerre, est une source majeure d'énergie, quant à l'acier, il est au cœur de l'armement. On ne peut pas faire l'industrie
de
l'armement.
D'ailleurs, c'est la première industrie de l'époque, la plus importante.
Absolument. Donc, comme le discours le dit lui-même, il y a vraiment une volonté derrière cette mise en commun du charbon et de l'acier de rendre impossible la guerre elle-même en supprimant une des bases de la puissance économique nécessaire à l'organisation de la puissance militaire, en supprimant plus exactement, en communautarisant cette base, en faisant en sorte qu'elle n'est plus laissée au seul vouloir des États concernés. Et ce discours a eu un impact important immédiatement. Il y a eu un impact très fort en Belgique, aux Pays-Bas, en Luxembourg, en Italie, où les autres gouvernements se sont dit qu'ils voulaient participer à cette communauté. Donc ce discours, évidemment, a été bien au-delà de la seule France et Allemagne.
Mais là, justement, quand même, là où c'est révolutionnaire, c'est la France et l'Allemagne, deux ennemis. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi un mot, qui est le mot clé, peut-être, de ce discours, qui montre bien que Schuman se méfie un peu des grands projets romantiques de Hugo, Briand entre les deux guerres. Il dit l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, donc hein, on y va modérément, ni par une construction d'ensemble, mais par une réalisation concrète créant une solidarité de fait au fond et entre la France, l'Allemagne et puis les quatre autres pays qui vont les rejoindre. Jean-Paul Blaine.
Oui, alors je voulais revenir sur un problème. Effectivement, c'est la France et l'Allemagne, et à partir de là, il y a tout un arrière-plan. Alors il y a le dit et le non-dit. Le dit, on vient de l'entendre, mais le non-dit, c'est aussi la volonté française qui inspirait également Briand en 1930, qui est d'une certaine manière de ligoter l'Allemagne, n'est-ce pas ? Nous sommes effectivement 5 ans après la fin du conflit. Il y a, depuis cette époque, la politique française menée par le général de Gaulle, par Georges Bidault ensuite, comme ministre étrangère, était inspirée par cette volonté. Bon, on n'y est pas arrivé, mais maintenant on va essayer de parvenir au même résultat par d'autres moyens. Ça, c'est ce qui n'est pas dit, mais qui est parfaitement réel. Je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être une différence entre Schumann et Monet. Monet n'est sans doute pas
sur cette ligne. Oui, parce qu'on a cité, Schumann, on a entendu Schumann, mais c'est pas Schumann dont on parle quand on parle du père de l'Europe, c'est celui qui a inspiré le discours que l'on vient d'entendre, et qui est Jean Monnet, une personnalité étonnante, qui était un peu dans l'ombre, mais c'est lui qui est à l'origine de, justement, ce qui va devenir tout de suite la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la CECA, c'est Jean Monnet, Benjamin Angèle.
Oui, on retrouve Jean Monnet derrière environ toutes les grandes idées de la construction européenne pendant près de 20 ans. On le retrouve derrière la CECA, on le retrouve derrière la Communauté européenne, on le retrouve même derrière le Conseil européen des années plus tard. Jean Monnet a eu un parcours étonnant qui l'a mené aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis à certaines époques de sa vie. Mais l'Europe a toujours été véritablement sa passion et sa grande idée. Je fais une petite parenthèse, comme vous citiez tout à l'heure le discours de Briand en 1930. On oublie beaucoup que ce discours qui avait été rédigé par un autre grand inspirateur, qui était le poète Saint John Perse, sous son nom de diplomate, qui était d'Alexis Léger, avait lancé les bases de la terminologie qu'on emploie toujours de nos jours, c'est-à-dire les termes de communauté européenne, qui ont été créés par Alexis Léger, et les termes de marché commun, qui ont également été créés par Alexis Léger.
Et aussi le mot fédération, mais je ne sais pas s'il donnait le même sens que les fédéralistes d'aujourd'hui.
Alors, revenons à Jean Monnet. Jean Monnet va prendre la tête d'une institution qui ressemble un peu à l'actuelle Commission européenne, et dont je voudrais qu'on parle un petit peu. C'était celle de la CECA, l'espèce de gouvernement de la CECA, en quelque sorte, la haute autorité que présidait Jean Monnet et qu'il dirigeait donc quand il prononçait ce discours le jour de la première séance de cette haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952.
Monsieur Jean Monnet prend la parole.
Messieurs, je déclare ouverte la première séance de la haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Nous exercerons nos fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la communauté. Dans l'accomplissement de nos devoirs, nous ne solliciterons ni n'accepterons d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun organisme, et nous nous abstiendrons de tout acte incompatible avec le caractère supranational de nos fonctions. Nous prenons acte de l'engagement des États membres de respecter ce caractère supranational et de ne pas chercher à nous influencer dans l'exécution de nos tâches.
Et c'était la voix de Jean Monnet qu'on trouve rarement dans les archives, le jour donc de la mise en place de la haute autorité, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un organisme supranational. Ça, c'est un mot qui a toujours fait peur, y compris aujourd'hui, parce que c'est vrai que ses membres, ses 9 membres, je crois, était totalement indépendant des gouvernements. C'est au fond l'apparition de ce qu'on appellera plus tard la technocratie européenne, mais vraiment en toute indépendance. Hein. Il n'était pas question qu'un gouvernement puisse dire à un membre de la haute autorité, même si il appartient à la nationalité du pays, d'un pays quelconque, vous ferez ceci ou cela. Ils étaient indépendants. Benjamin Angèle.
Ils étaient en effet totalement indépendants, mais ils n'étaient pas irresponsables pour autant, puisque les membres de la haute autorité étaient responsables devant l'Assemblée parlementaire de la CECA, qui pouvait les révoquer. Par ailleurs, il y avait aux côtés de cette haute autorité un comité des ministres et une cour de justice qui contrôlait les actes pris par cette haute autorité. Mais il est vrai que cette haute autorité avait des moyens très importants puisqu'elle fixait les objectifs de production en matière de charbon et de l'acier. Elle contrôlait les concentrations, elle soutenait la recherche, elle suivait les développements tarifaires. Et elle avait des ressources puisqu'il existait un prélèvement de 1% sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Donc il y avait déjà ce qu'on appelle un peu dans le jargon communautaire des ressources propres. Donc des ressources qui sont directement affectées sans passer par les États membres eux-mêmes, ce qui donnait une grande autonomie à cette autorité.
Jean-Paul Plaine.
Oui, bien effectivement, c'est cela qui est révolutionnaire, je dirais à la limite plus encore que le discours du 9 mai, c'est l'institution de cette CECA fondée sur ce principe qui nous venons d'entendre, sur le principe de la supranationalité. Alors bien sûr, au départ, selon la méthode de Jean Monnet, il s'agit d'appliquer cette règle à un secteur. Hein. C'est la méthode sectorielle. Mais bien évidemment, Jean Monnet considère qu'il doit y avoir un phénomène de coalescence, en quelque sorte, et qu'à partir de ce secteur, on en ajoutera d'autres, et que, de fil en aiguille, de secteur en secteur, on arrivera à la Fédération européenne. Bon, dans un avenir qui n'est pas dit, évidemment, mais c'est cela l'objectif, dès le départ.
Vous avez évoqué Benjamin Angèle, les autres institutions de la CECA, et en vous écoutant, je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, c'est le laboratoire de l'Europe. La haute autorité, même si elle a plus de pouvoir que l'actuelle Commission européenne où vous travaillez, c'est un peu la Commission européenne, il y a un Parlement. Au fond, on a l'impression, et c'est ce que vous disiez aussi, Jean-Paul Bled, que on préparait l'Europe à venir à partir de la CECA.
La Commission européenne a récupéré les pouvoirs de la haute autorité. Elle l'a fait en 1967, si ma mémoire est bonne, lorsqu'on a ce qu'on appelle fusionner les exécutifs. Mais là, on s'avance un peu dans une période qu'on verra plus tard. Mais la Commission est clairement l'héritière de la haute autorité, même si son caractère supranational, à son origine notamment, a été moins prononcé que n'était celui de la haute autorité.
Alors, à ce moment-là, bon, il ne s'agit quand même que d'une institution chargée de la mise en commun entre 6 pays, je rappelle leurs noms, la France, l'Allemagne, et puis auxquels se sont ajoutés l'Italie et les 3 pays du Benelux, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, mais ça porte sur uniquement quelques produits, le charbon, l'acier, puis les fers, les ferrailles aussi, c'est donc un objectif assez limité, alors que la même année, en 1952, au moment où apparaît justement, où se mettent en place les institutions de la CECA, apparaît un autre projet apparemment beaucoup plus ambitieux, c'est celui d'une communauté européenne de défense, la CED, qui a été voulue, je crois, par les États-Unis. Il s'agissait dans l'esprit des Américains, je crois, Benjamin Angèle, de mettre en place, de permettre la mise en place de quelque chose qui faisait bondir tout le monde à l'époque, c'était une armée allemande. L'Allemagne n'avait pas l'autorisation, depuis la fin de la guerre, d'avoir une armée. Et là, les États-Unis veulent évidemment réduire leur présence de leurs forces en Europe et disent, il nous faut une armée allemande, vous débrouillez. C'est ça, schématiquement.
Schématiquement, c'est ça, oui, en effet. On était dans un contexte qui était extrêmement tendu. Il y avait le blocus des murs de Berlin. En 1948, il y a eu toutes les séries de coups d'État qui ont fait basculer dans le camp communiste, les uns après les autres, les pays occupés par l'armée rouge. Les Américains sont arrivés très rapidement à la conclusion que la sécurité de l'Europe occidentale supposait passer par le réarmement allemand. Alors le réarmement allemand, quelques années après la guerre, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile à imaginer. Et il y a donc la proposition faite en 1951 par le président du Conseil de l'époque, René Pleven, de créer une communauté européenne de défense, avec l'idée, en effet, de noyer ce réarmement allemand dans une armée européenne qui aurait vocation à être vaste, parce qu'elle aurait, normalement, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 580 000 hommes. Donc, une vaste armée, laquelle serait elle-même placée...
sous commandement de l'OTAN.
Alors, pas sous commandement de l'OTAN. Oui, sous le commandement de l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord. Oui, on peut le dire de la sorte. Disons, à la disposition de l'Organisation de l'Atlantique Nord.
Oui, ce qui, à mon sens, dit tout. Alors, effectivement, c'est un produit de la guerre froide. C'est évident. En même temps, il y a cette pression américaine qui explique l'intervention de René Pleven, puisque c'est une initiative française, mais sous pression américaine. Il faut bien replacer les choses et donc, dans leur contexte.
Pas très européenne, enfin pas spécifiquement européenne.
Moi, je ne la reconnaîtrais pas comme européenne dès lors que il y a cette soumission à une puissance extérieure.
En tout cas, c'est un projet qui voit le jour, ça ne durera pas longtemps, mais qui voit le jour à Bonn, puis à Paris, en mai 1952.
C'est dans le cadre de cette défense de l'Europe et les garanties demandées par la France ayant été admises qu'ont été paraffés à Bonn les accords contractuels germano-alliés rendant à l'Allemagne de l'Ouest sa souveraineté et l'autorisant à posséder une force armée. Le chancelier Adenauer a apposé sa signature sur ce traité qui marque la rentrée de l'Allemagne dans le concert des nations atlantiques. Le lendemain, à Paris, était signé un autre accord strictement limité aux représentants des nations de l'Europe continentale et mettant définitivement au point la communauté de défense liant aux États-Unis les pays signataires. Une force militaire commune est maintenant sur pied.
Et cette force militaire commune mise sur pied en 1952 est bancale dès le début, puisqu'en fait elle ne verra jamais le jour. Cet accord de Paris, donc signé en 1952, ratifié progressivement par tous les pays signataires, sauf un. La France. Alors, pourquoi d'abord? Il y a eu une bronca en France contre cet accord qui épouvantait un certain nombre de gens, qu'il s'agisse de gaullistes, de communistes, etc. Quelle est la raison de ce rejet, de ce projet de CED, dont la France, vous l'avez rappelé, Jean-Paul Bled, était l'initiatrice? Benjamin Angèle?
Il y a évidemment la crainte du réarmement allemand qui a joué pour beaucoup, notamment chez les gaullistes et les communistes. Il y a aussi l'évolution du contexte international. On a en 1953 la mort de Staline qui entraîne un premier apaisement et qui rend donc un peu moins urgent la constitution d'une défense européenne un peu plus forte. Et puis il y a le fait, pour ce qui est du gouvernement français, qu'une grande partie des troupes françaises étaient enlisées en Indochine. Et qu'il y avait une certaine crainte, donc, si une armée européenne se constituait, de ne pas arriver à avoir une parité entre troupes françaises et troupes allemandes, pour la simple raison qu'une partie des troupes françaises se trouvait placée hors du théâtre européen. Et cet ensemble a un peu contribué à créer un contexte défavorable, finalement, à la discussion.
Mais une coalition aussi qui me fait vraiment penser à ce qui se passe aujourd'hui. Il pourrait y avoir dimanche un vote négatif, alors que la France est un des pays fondateurs de la communauté européenne, et avec une même coalition qu'il y a une cinquantaine d'années, du temps de la CED, on y trouve des gaullistes, on y trouve des communistes, on y trouve une bonne partie du Parti Socialiste, Jean-Paul Bled aussi.
Oui, c'est parce que les choses se sont passées exactement de la sorte, lors du rejet du traité en août 54, c'est là il n'y avait pas de référendum, c'est l'Assemblée nationale qui s'est prononcée, et cette majorité hostile au traité réunissait des composantes très variées. En fait, il n'y a eu à garder son unité que le mouvement républicain populaire, le MRP, les démocrates chrétiens, et les communistes et les gaullistes dans l'autre sens. Mais les autres, les socialistes, les radicaux, les modérés,
se sont dit,
Pierre Mendès-France, qui était le président du Conseil, effectivement, qui n'a pas soutenu ce traité, et d'ailleurs, le MRP lui en a beaucoup voulu.
En deux mots, Benjamin Angèle, il nous reste quelques secondes.
Je suis d'accord avec Jean-Paul Bel, je voulais juste revenir sur un point qui était la soumission à l'OTAN. C'est vrai que cette soumission était réelle. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, on ne pouvait pas concevoir de sécurité européenne sans l'application des États-Unis. Il y avait une vraie menace soviétique. Et l'OTAN était elle-même conçue pour laisser une grande place aux Européens, notamment dans le commandement politique. Selon le mot assez caustique de son premier secrétaire général, Lord Ismay, il avait dit que l'OTAN a trois fonctions qui étaient garder les Américains dedans, les Soviétiques dehors et les Allemands dessous.
En tout cas, la
CED était le premier échec au fond de la construction européenne, mais qui va rebondir très vite avec le traité de Rome, le marché commun, dont nous parlerons demain avec vous et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Constitution, Benjamin Angèle et Jean-Paul Bled. Benjamin Angèle, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Jacques Lafitte de L'Europe, petite histoire d'une grande idée, un livre qui vient d'être réédité chez Gallimard dans les collections Découvertes. Et Jean-Paul Bled, vous êtes le rédacteur en chef de la revue mensuelle L'Indépendant. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1952, extraite du journal de votre année, édition Montparnasse. Beaucoup d'autres références, surtout en ce moment, beaucoup d'autres livres sur notre site. Vous pouvez les consulter au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Claire Destacan, Claire Tesser, Sandra Escamez, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation.